Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Trésor de sur RMC, RMC Story, on est de retour dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Paul Lassen, avec le journaliste Daniel Riolo, avec la journaliste indépendante Emmanuelle Dancourt et avec le président du mouvement national des chômeurs et des précaires, Pierre-Edouard Magnan. On est avec vous également au 32-16 pour parler de cette femme arrêtée par la police car elle avait insulté le président de la République. Est-ce que ça va trop loin? On attend bien sûr vos réactions. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Gaëtan Mélin. On parlera des vacances de Pâques qui se profilent, qui arrivent très vite. Et malheureusement, il y a une baisse des réservations pour les vacances. Gaëtan nous expliquera tout ça. À 14h, on parlera de la ville de Pau qui conditionne l'obtention du RSA à 15 heures d'activité par semaine. Vous êtes pour, vous êtes contre. En tout cas, vous nous écrivez votre réponse sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. Et puis à 14h30, il y aura RMC s'engage pour vous. On va essayer d'aider des clients de la banque Nickel, victime de fraude.
RMC Estelle Midi.
13h03 sur RMC et on va s'intéresser tout de suite à l'arrestation du jour. C'est celle d'une habitante des Hauts-de-France qui a eu la surprise de recevoir la visite de la police. La raison de cette visite, elle avait traité le président de la République, elle avait insulté le président de la République sur Facebook et pour cette injure, elle risque très très gros.
Oui, jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende et tout ça pour deux posts publiés sur son compte Facebook. Le premier, une photographie d'elle souriant près de cette inscription Macron ordure, près d'un dépôt de déchets en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Croyant d'abord à une blague, les policiers l'arrêtent bien finalement et l'accusent d'avoir tagué ce Macron ordure sur le dépôt. Faux, j'ai juste été prise en photo devant en train de sourire, se défend-elle. Le deuxième post incriminé, c'est ce message. L'ordure va parler demain à 13h pour les gens qui ne sont rien. C'est toujours à la télé que l'on trouve les ordures, ce message qui avait été posté à la veille de l'interview du président de la République sur France 2 et TF1. Elle se défend également de cette publication et je vous laisserai juger de sa crédibilité. C'est bien moi qui ai fait cette publication, mais je voulais faire un jeu de mots et écrire l'or dur en deux mots. Le correcteur a modifié, je n'ai pas relu avant d'envoyer d'ailleurs. Je ne cite même pas Macron, dit-elle. Alors cette militante... Oui, cette militante des Gilets jaunes.
Comme elle veut prendre pour un con les gens,
passera devant la justice au mois de juin pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Une procédure peu souvent déclenchée, reconnaît quand même le commissaire de Saint-Omer.
Est-ce que ça va trop loin ou est-ce que vous trouvez ça logique qu'on se fasse arrêter pour une insulte sur Facebook, Daniel Riolo?
Ah.
Ouais.
Oh. Alors, bon, déjà.
Vous qui avez la plume alerte, la plume facile. Alors, en ce qui concerne les insultes.
Les réponses, c'était pas pareil.
Oui.
C'était pas pareil. La riposte, c'est toujours différent.
D'accord.
Alors, dans ce débat, déjà, il faut... parce que si on axe tout autour de Macron, immédiatement, ça hystérise le débat. Mmh. Et tous ceux qui peuvent pas le blairer, et il y en a beaucoup en France... vont dire c'est pas grave, c'est pas si grave. Et en fait, le c'est pas si grave va souvent de pair avec puisqu'il est connu, alors puisqu'il en plus d'être connu, il est important, il doit l'accepter. Parce que moi, c'est exactement ce qu'on m'a reproché au moment de mon bannissement, c'est toi, comme t'es connu, t'es un personnage public, tu dois accepter de te faire traîner dans la boue, qu'on insulte ta famille, ta femme, tout le monde, tu ne réponds pas. En gros, tu dois être plus intelligent qu'eux. On n'est pas obligé d'avoir cette mentalité-là, on n'a pas obligé d'avoir envie d'être plus intelligent que l'autre, et on a le droit de ne pas vouloir être insulté. Et donc, c'est pour ça que je répondais. Et donc, on en revient au fameux vieux débat de l'anonymat qui, sur les réseaux sociaux, qui, comme le disait un gendarme récemment, mais en fait, ça n'existe pas vraiment, parce que moi, quand je porte plainte pour quand les insultes sont vraiment lourdes, immédiatement, le mec, il reçoit une visite, hein. C'est, il le retrouve très facilement et les gars se calment immédiatement après. Il y a pas de problème. Là, dans le cas de Macron, Bon, ben, le respect, alors je sais que par les temps qui courent, ça n'est plus très à la mode, le respect des institutions, du président, de l'autorité, de la hiérarchie, tout ça ne veut plus rien dire. Elle va pas finir en prison. Elle va juste aller. Ben, bon, ben voilà. Donc, tout dépend évidemment de la gravité. Entre dire t'es une ordure et je te jette un pavé à la gueule, il y a quand même une marge.
C'est ça.
Donc il faut pas non plus crier au scandale parce que les flics sont allés lui rendre visite à la dame.
Surtout
si derrière elle continue de prendre les gens pour des cons en disant mais non, j'ai pas vraiment voulu faire ça, j'ai voulu faire ça. Bon, OK, il va rien se passer à l'arrivée pour elle.
En vrai, il a dû moi ce que je ne comprends pas.
Non mais l'indulgent, attends, excuse-moi.
Il a dû prendre des injures bien plus graves.
D'accord. Au bout d'un moment, on va arrêter de classifier tout ça et de dire là c'est grave, là c'est pas grave. L'année dernière quand il a pris une claque, il y avait encore des gens.
Ça n'a rien à voir.
Justement, c'est ce que j'allais y venir. Ça n'a rien à voir. Mais il y avait néanmoins, quand même, encore des gens pour dire qu'il fallait être indulgent.
D'accord.
L'indulgence, au bout d'un moment, moi, ça me gave. Il n'y a pas à être indulgent envers la violence, il n'y a pas à être indulgent envers les insultes. Il y a juste. Tu réponds, tu assumes ce que tu fais. Tu ne peux pas insulter comme ça et on a le droit de porter plainte contre toi si tu le fais. Moi, dans mon métier, on porte très souvent plainte en me disant t'as diffamé. J'assume, je vais au tribunal, je me défends. Je me défends et je gagne d'ailleurs. Voilà. Bon, eh ben, ceux qui insultent sur les réseaux sociaux, puisque j'ai pas toujours envie de porter plainte, parfois ça m'arrive, je réponds. Le mec qui me dit t'es con, je lui dis t'es trois fois con.
Oui, enfin, il ne peut pas lui dire toi-même, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a un moment où.
C'est celui qui dit qui y est.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Pierre-Édouard Magnan, enfin, on se dit quand même, enfin, on est en Corée du Nord, là, c'est pas possible, quoi, quand même.
Mais pourquoi? Mais non, j'accepte pas que tu dises ça. Non, il est insulté, il a. Mais non, mais pourquoi tu dis Corée du Nord? Non, alors là, c'est toi qui manques de mesure.
Non, je suis désolée.
Pour la première fois, ça n'est jamais arrivé que tu m'agaces, mais là, vraiment, ça m'agace que tu dis ça.
Alors, je vais t'expliquer.
Non, mais là, je supporte
pas. Parce que c'est, encore une fois, je te dis pas que c'est bien. Bien sûr que c'est pas bien et c'est inadmissible. On n'insulte pas les gens. Je suis d'accord. Maintenant, et encore une fois, je veux pas classifier des insultes. Il doit en recevoir, mais des milliers par jour, c'est pas le problème. Elle risque 15 000 euros parce que c'est le président de la République. Maintenant, elle ne l'insulte pas.
Elle va pas les payer.
Attends,
écoute-moi.
Non, mais c'est pas ça. Elle ne l'insulte pas, lui. Elle ne lui dit pas Macron, ça leur dure. Elle dit. Dans un post Facebook, cette ordure de Macron, c'est complètement différent. Et moi, j'avoue, franchement,
elle ne le cite même pas.
Donc, je veux dire, à un moment, bien sûr qu'elle
aura pas. Mais ça sera jugé, Estelle.
Qu'elle soit jugée.
Ça sera jugé, mais ne dis pas qu'on est en Corée du Nord, parce que c'est pas vrai. En Corée du Nord, elle serait déjà en taule. Là, elle ne va rien payer et elle ira pas en taule. Donc, on n'est pas en Corée
du
Nord.
Sauf que c'est beaucoup par rapport à ça. Je suis désolée.
Les analogies, faut faire très attention aux analogies. Il y a trop de gens en France aujourd'hui qui disent qu'on est en dictature, alors qu'on est en démocratie. Et il y a trop de gens qui veulent fouler aux pieds la démocratie et la République aujourd'hui à l'extrême gauche pour qu'on manie des analogies dangereuses. Pierre-Edouard. Je ne supporte pas ça.
D'accord, Pierre-Edouard Magnan.
Alors, ce dit effectivement, non, nous ne sommes évidemment pas nous ne sommes évidemment pas encore, nous ne sommes même pas dans un régime autoritaire, parce que ça même pas Dieu merci, évidemment, c'est pas le cas. Après, effectivement, d'abord, je trouve qu'on en fait beaucoup. J'ai même envie de dire, le seul fait que le président ait fait le nécessaire pour qu'une plainte soit déposée, qu'on aille l'arrêter, fait qu'on en donne un écho, et que moi, qui n'avais absolument pas vu que ces postes existaient, maintenant, je le sais. Donc déjà, je trouve que c'est en plus que soit choquant qu'il y ait une réaction à une insulte. Non, c'est pas forcément choquant. Par contre, je pense que c'est pas malin, y compris quand on est président de la République. Et aussi un autre sujet, on ne traitait pas un certain nombre de présidents de la République par le passé. Je n'ai pas remonté jusqu'à René Coty. Fallait voir ce qu'on lisait dans les journaux dans les années 30. Enfin, je veux dire, fallait voir ce qu'on pouvait écrire dans les journaux. Et à l'époque, c'était même pas passible de poursuite de la loi. Donc, on est très très loin de ça. Il y a quand même un vrai sujet que de voir depuis quelques présidents, c'est pas que lui d'ailleurs, il y a eu une telle descente de la fonction dans l'arène, pour rester aussi neutre que possible, qu'effectivement aujourd'hui, on est en opposition sur un projet de réforme, puisque c'est le contexte social, la réforme des retraites qui est derrière ça, et que du coup, d'abord, c'est le président qui prend tous les coups. Je rappelle que la 5e a été conçue pour que le Premier ministre soit infusible. Elle ne l'est plus, on attaque directement le président. Et comme effectivement, il descend dans l'arène et qu'il a quand même aussi lui-même une attitude, alors il n'insulte pas, enfin... Que ne profère pas de mots grossiers à l'égard des Français. Certains pourraient
sur les non-vaccinés notamment.
Certains pourraient en plus considérer que certaines de ses attitudes peuvent être insultantes. Alors après, entre ce qui est insultant et une insulte, il y a effectivement une marge. Après, moi, si j'étais lui, franchement, je regarderais ça de haut. Je lui rappellerais, je trouve cette phrase extrêmement méprisante, mais tellement belle de Mitterrand, alors parlant de tous ceux qui écrivaient des bouquins sur lui pour dire du mal de lui, qui disait « ce sont mes pauvres ». Et que jamais il n'a porté plainte, jamais il ne s'est manifesté. Alors personne ne l'a jamais traité d'ordure, en tout cas pas publiquement, mais je trouve que ça avait sans doute une autre...
Je pense que la violence d'aujourd'hui n'est pas celle de l'époque.
On est d'accord.
Tu as raison.
Vraiment.
Mais c'est le Moroccan à De Gaulle, vaste programme.
Juste pour info, la plainte vient de la sous-préfecture.
Exactement ce que j'allais dire.
Et pas de Macron,
Oui, enfin c'est l'État.
Qu'est-ce que tu...
Non, la plainte vient de la sous-préfecture et pas de l'Élysée ou d'Emmanuel Macron directement.
Exactement. Emmanuel, donc on peut quand même se dire que ça tombe mal cette affaire. C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron, il a peut-être pas besoin de ça, surtout si ça vient pas de lui. Tout le monde va lui tomber dessus en disant c'est incroyable d'aller arrêter cette femme, etc.
Moi, je la trouve hyper intéressante cette affaire. Il y a plein d'enjeux. Il y a d'abord ce que tu as raconté qu'on appelle les fesses traînantes. On est en train de mettre la lumière sur un truc qui serait passé complètement inaperçu si la préfecture ou la sous-préfecture n'avait pas mis le doigt dessus. Donc ça, c'est une première chose. Et ça me fait toujours rigoler ce genre de les... Pourtant c'est connu les fesses traînantes. Mais bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que elle tombe sous le coup d'une loi qui existe, que je connaissais même pas. Moi, j'avoue que les 15 000 euros, quand j'ai vu les 15 000 euros d'amende et un an de prison, je me suis dit, la disproportion, la disproportion quoi. Et puis surtout la disproportion de réaction. Moi je trouve, donc là la préfecture, donc c'est la police, mais ça peut être la gendarmerie. Dans d'autres cas, s'ils étaient aussi rapides que ça, parce que ce sera jugé au mois de juin, s'ils étaient aussi rapides que ça dans le cas des violences conjugales, des violences sexuelles. Waouh, mais j'adorerais,
mais
moi.
Raison,
et tu sais ce qui m'est arrivé une fois? Il y a un mec, il me rentre, je suis enceinte de mes jumeaux, il y a un mec qui me rentre dedans en voiture. Sa voiture fait un tonneau, machin, mais il est complètement en faute. Il porte plainte contre moi. Le mec, hein, il porte plainte contre moi. Le lendemain matin, à 8h du matin, le samedi, j'avais deux gendarmes à ma porte, à 8h, deux, hein. Et vous êtes déjà au courant pour l'accident que j'ai eu hier? Oui, il porte plainte contre vous, on vous emmène. J'ai dit, ah, elle est forte celle-là. Donc je suis allée suivre mes petits gendarmes à la gendarmerie de Saint-Bernon, pour ne pas l'associer. Et c'est moi qui ai dû porter plainte contre le mec, oui. Évidemment que j'ai eu raison.
Quel rapport avec cette histoire?
Mais ça veut dire que pour un truc mineur, t'as deux gendarmes qui viennent te voir. Donc elle, on dit, ouais, il y en a trois qui sont venus la mettre en garde à vue. Moi, je suis pas surprise. En fait.
Moi, je suis surprise parce que effectivement, quand tu parles des féminicides, il y a quand même des femmes qu'on a renvoyées chez elles sans même prendre leur plainte. Donc, si tu veux, je me dis, il y a quand même.
Il y a deux poids deux mesures.
Il y a deux poids deux mesures.
C'est disproportionné.
Deux poids deux mesures, même si bien sûr, on ne peut pas cautionner des insultes au président de la République ou à qui que ce soit. D'ailleurs, évidemment, Samuel nous appelle de Strasbourg. Bonjour, Samuel.
Bonjour, mademoiselle Denis. Mademoiselle.
Exactement, mais merci de le mentionner. Samuel, vous pensez quoi de cette affaire? Est-ce que ça va trop loin pour vous?
Ça va beaucoup trop loin, puisque je rappelle juste qu'il y a quelques années de ça, on est tous sortis dans la rue avec un crayon, et on a tous dit « je suis Charlie ». Et oui. Charlie Hebdo, chaque semaine, c'est des insultes sur le président, c'est des insultes sur d'autres présidents, et on n'en fait pas, on n'amène pas Charlie en prison, ou on les convoque pas.
Mais c'est de la caricature, Samuel.
Mais attendez, dans la caricature, quand ils traitent Macron de con ou machin, je veux dire, c'est...
Mais c'est de la caricature, et on sait que c'est de la caricature. Et dès lors que c'est de la caricature, c'est pas une insulte, en fait.
Mais oui, alors quand M. Macron dit « aux non-vaccinés, je vais les emmerder », quand il dit qu'il y a des gens qui ne font rien dans les gares, c'est quoi? C'est pas de l'insulte?
Mais c'est bien pour ça qu'il y a un débat, Samuel.
Donc, moi, je dis juste que ce monsieur, il peut être président, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle dit ordure, en plus elle ne le cite même pas. Elle dit il y a l'ordure à 13h.
Je crois qu'on avait bien compris quand même, Samuel.
Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, elle l'a pas cité. On ne nous prend pas pour des cons là, c'est bien.
Si maintenant je dis monsieur Riolo, vous êtes une ordure, c'est. Je cite le nom. Mais je cite.
Oui,
je
dis, effectivement, mais si tu dis, dans l'émission Estelle Denis, juste à côté de Paul, il est là le con, tu m'as pas cité. Merci.
Oui, mais je sais pas si c'est de la diffamation.
Continue,
c'est pas de la diffamation.
C'est une diffamation si on dit tu es con, mais si on dit le con machin, c'est pas de la diffamation. Bah après, okay. J'entends que la ligne était nue.
Okay, d'accord. Très bien.
Mais donc, Samuel, pour vous, en fait, elle aurait eu le droit d'insulter le président de la République impunément?
Je veux dire, vu le niveau politique en ce moment.
C'est voilà. Une raison.
Voilà. Donc, on retombe. Ce monsieur est radiologue, quand même. Je pense qu'il a un certain niveau d'études.
Il a dit le niveau politique. Il n'a pas dit Emmanuel Macron.
Je suis désolé. On n'agit pas comme ça. Donc, en fait, en fonction de la personne, on a le droit ou pas de l'insulter. Donc, voilà. Donc, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, personnage public, tout le monde a le droit de m'insulter. Et je dois surtout ne rien dire, ne pas répondre. Macron, c'est le président. On peut l'insulter, peu importe. Et alors, qui on a le droit? Un ministre, on n'a pas le droit. Un leader d'un autre parti politique, on peut ou on peut pas. Je comprends pas.
Samuel. Allez-y, Samuel.
Monsieur Riolo, quand la plupart des gens politiques aujourd'hui, vous avez plus de 50% d'abstention, vous avez des gens qui se font élire avec même pas 10% des inscrits, comme par exemple...
Ça s'appelle la démocratie, vous avez qu'à aller voter, monsieur.
Non, c'est pas la démocratie, monsieur. Quand vous représentez même pas 10% des gens, vous n'êtes pas démocrate.
Mais là, c'est un autre débat.
On est en France face à des extrémistes qui sont antidémocratiques, antirépublicains comme ce monsieur.
Mais
ils savent ce qu'est la démocratie.
D'accord,
dans tous les pays... on a le droit d'aller voter, il ne veut pas aller voter, mais qu'il n'y aille pas, mais qu'il ne se plaigne pas derrière. Attends, et il ne représente pas 10%, il représente la majorité de ceux qui ont bien voulu faire la démarche d'aller voter. Bon. Voilà, qu'ils aillent dans des vrais pays qui sont des dictatures et ils verront la différence.
Non, mais de toute façon, c'est pas
je n'en peux plus de ce discours en France, bon. Comme quoi... Je rappelle que dans les autres élections présidentielles, il y a beaucoup de gens qui ont été élus avec moins de voix que Macron au premier tour de celle-ci.
Mais Daniel, mais cette... ok, mais là, c'est, là, okay, on
c'est
a compris.
Pas moi qui ai dévié, c'est me, le radiologue.
On a compris, c'est bon. Merci.
Une radio à sa tête parce
merci, merci Samuel, en tout cas, d'avoir été avec nous, parce que je pense que le point de vue de Samuel, il est beaucoup partagé aujourd'hui en France. Bah oui, mais c'est comme ça. Voilà,
il est partagé, on a le droit d'insulter le président, c'est partagé.
C'est pas ce que je te dis.
Dans les rues, il y a des mecs qui se baladent avec des piquets, genre on va lui couper la tête. Oui, c'est le climat en France aujourd'hui. Ça, je l'ai vu, merci.
Des messages, Paul.
Oui, beaucoup de messages qui vont dans les deux sens, mais ce message intéressant de Johan, pour ma part, je trouve que cette sanction est normale et que cette femme ne pourrait s'en prendre qu'à elle-même, mais je rappelle quand même que l'origine des réseaux sociaux n'a rien de vertueux, qu'ils c'est participent vrai. Eux-mêmes au harcèlement en ligne sous couvert de pseudo. Si une personne se fait prendre, eh bien, tant mieux, je pense même qu'il faut aller plus loin et responsabiliser les réseaux sociaux eux-mêmes.
Ouf. L'invité aujourd'hui sur ce débat, c'est Fabrice Épelleboin. Il est spécialiste des réseaux sociaux et enseignant à Sciences Po. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur ce débat qui est passionné et assez passionnant parce qu'on parle d'un tout petit fait finalement. Bon, une femme qui se laisse aller sur Facebook, qui insulte le président de la République. J'ai vu des insultes encore une fois, même si on ne doit pas faire de hiérarchie, mais bien pire. Je veux dire, Emmanuel Macron, c'est tout petit par rapport à ce qui se prend dans la figure tous les jours. Et finalement, cette femme est arrêtée et risque quand même un an de prison et 15 000 euros d'amende. Et on se dit quand même que, bien sûr, il faut les insultes, ça doit être puni, mais même si c'est pas bien, il y en a tellement sur les réseaux sociaux qu'on est étonné que celle-là ait retenu l'attention du président de la République et de la sous-préfète.
Oh, c'est avant tout une grosse bourde de la préfecture qui aurait mieux fait de s'abstenir de déposer plainte parce qu'effectivement, ça offre une caisse de résonance phénoménale. Pour, il faut rien exagérer, nous ne sommes pas, en tout cas, pas encore en Russie, cette jeune femme qui normalement ne risque rien, elle va juste passer de la garde à vue. Et pour ceux qui approuvent ce type de méthode, ça lui fera une leçon et peut-être que ça calmera les autres. Mais a priori, au vu des premières réactions, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas.
Non, pas là, non. Ben oui, c'est en fait, j'ai envie de vous dire, c'est presque pire, quoi, maintenant.
Oui, c'est presque pire. On est à un point d'inflexion dans le régime politique français et il faut prendre un peu de recul et faire un peu de géopolitique pour s'apercevoir que c'est une tendance qui est globale. La France n'a rien d'exceptionnel. Pour vous donner des chiffres, typiquement, il y a une dizaine d'années à peine, vous aviez 5% de la population française qui vivait dans des régimes politiques qui étaient en voie d'autocratie. Alors, c'est pas une dictature, l'autocratie, hein, mais c'est là où on se dirige très clairement. Aujourd'hui, vous avez plus de la moitié de la population mondiale qui vit dans un régime en voie d'autocratie. Vous avez les trois quarts de la population mondiale qui vit dans un qui se retrouve dans ce type de régime. La France ne fait que suivre la tendance. Le système démocratique n'est plus le système qui produit de la richesse, qui génère du commerce, qui crée de la valeur. Aujourd'hui, c'est du côté des autocraties. Donc la France, très logiquement, suit cette tendance. Peut-être qu'elle va éviter d'y aller, mais rappelons tout de même que les États-Unis, qui sont le chantre du premier amendement et de la liberté d'expression absolue, eux-mêmes sont en train de restreindre de façon drastique la liberté d'expression. Donc prenons un peu de recul. Oui, effectivement, la démocratie, bah, c'est un peu derrière nous, malheureusement, mais la France n'a rien d'une exception. La France suit une tendance mondiale.
Oui, mais là, ça veut dire ce fait divers que finalement chaque personne qui insulte ou qui émet une critique virulente envers le président de la République peut potentiellement recevoir la visite des policiers. Enfin, ça va faire beaucoup de gens. Hein.
Oui, voilà, ça n'ira pas plus loin que ça. Encore une fois, nous ne sommes pas en Russie, nous ne sommes pas une dictature. Même si nous ne sommes plus une démocratie, nous ne sommes pas une dictature pour autant. Le monde n'est pas binaire. On n'a pas d'un côté les démocraties, de l'autre les dictatures. On a toute une palette de nuances dans les régimes de gouvernance et nous sommes effectivement en train d'évoluer. Et de ne pas aller dans le sens de la démocratie, pour le dire.
À quel moment on a été une démocratie si on ne l'est plus aujourd'hui? Je ne comprends pas bien votre discours là. Parce que pendant mai 68, on disait que c'était un régime déjà fasciste. À quel moment on a été une démocratie en fait?
Alors, on a été une démocratie dans la théorie, dans la mesure où, fondamentalement, la liberté d'expression était un concept. Hein, et la liberté d'expression est devenue une réalité à partir du moment où on a donné les moyens à la population de s'exprimer autrement au bistrot du coin. Et ça, c'est très récent. Ça a une dizaine d'années, pas plus. Et au final, on a été dans une illusion de démocratie pendant un bon bout de temps. Aujourd'hui, l'illusion n'est plus possible vu que tout le monde peut s'exprimer. Il y a 20 ans, vous pouviez traiter Macron de tous les noms au bistrot du coin et vous n'étiez pas du tout importuné. Et même si le quartier entier était au courant, vous n'étiez en aucun cas importuné. Aujourd'hui, les choses ont changé. La démocratie se retrouve face à une réalité. Elle est obligée de faire face à ses concepts de base, les droits de l'homme, la liberté d'expression. Et on s'aperçoit tous que les droits de l'homme, c'est un concept, c'est un fantasme. La réalité de l'action de la France à travers le monde ne suit pas du tout les droits de l'homme. La réalité de la démocratie française n'a que très peu de choses à voir avec et la démocratie et la liberté d'expression. Ça, on aurait pu s'en apercevoir il y a 40 ans si on a vu Facebook. Mais la réalité, c'est qu'on s'en aperçoit maintenant que toute la population française dispose d'une réelle liberté d'expression.
Et ce qui est fou, c'est un peu ce que vous disiez avec le bistrot du coin, c'est que cette dame, elle devait avoir 26 followers et son poste, il avait dû être vu par 4 personne et que personne n'avait relevé parce qu'on voit tellement de trucs en fait on n'y fait même pas attention et que c'est le fait qu'il y ait une plot qui fait que tout le monde que tout le monde relève et ça devient
dommage,
viral.
C'est qu'on n'ait pas le temps de répondre à ce que dit notre invité parce que
c'est des choses
qui sont assez
d'accord. Daniel, je voudrais juste qu'on prenne Frédéric qui nous appelle de Troyes. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Bonjour. Frédéric, vous voulez réagir sur ce débat. Est-ce que vous êtes choqué par ces insultes ou plutôt choqué par le fait que cette dame ait été arrêtée?
Choqué par le fait qu'elle soit arrêtée. Je ne vais pas revenir dans le détail. Notre président nous insulte régulièrement.
Mais il ne vous traite pas d'ordure.
Non, mais c'est une insulte à l'intelligence, une insulte aux faits tels qu'ils sont. Donc, moi, si vous vous trimballez dans une certaine rue de Troyes, vous allez voir deux réseaux Wi-Fi. Il y en a un qui est Macron égale Cron plus ordrure. Ah oui. Et il y en a un autre, c'est les Macron, ça ose tout, point de suspension. Parce que il est toujours en train de nous insulter, de nous rabaisser, de nous mépriser. Et je pense qu'il faut faire exactement la même chose avec lui.
Ah bah vous pouvez pas dire ça, Frédéric. Bah attendez, on va où après? Bah non.
Allez voter dans 4 ans et mettez-le dehors. De toute façon, il va partir de lui-même dans 4 ans.
Ah bah oui, ça, de toute façon, il n'aura pas le choix.
Voilà.
C'est une bonne chose, mais ça serait... Ça,
vous voterez pour des opposants qui sont bien plus démocratiques, hein. Sur le paysage politique français, il y a des gens qui sont bien
plus dans
le dialogue.
Mais il ne
change rien au discours. Il nous prend régulièrement pour des imbéciles. Sur la loi, sur les retraites, on a eu tout, on a eu toutes les justifications. C'est pour les hôpitaux.
Oui, mais il a insulté personne, vous voyez, Frédéric. Là en fait, si cette dame avait dit « il nous prend pour des imbéciles », il n'y aurait pas eu de problème, hein.
Et c'est quoi la différence entre imbécile et ordure?
Ben, ordure, c'est une insulte. Et il nous prend pour des imbéciles, c'est pas
une insulte?
Ben, si vous dites il nous prend pour des imbéciles, non, personne n'est diffamé. Si vous dites d'une personne que c'est une ordure, oui, elle peut s'estimer diffamée. Non, Frédéric, si quelqu'un dit de vous, il nous prend pour un imbécile, vous allez dire, bon, à la limite, vous direz, oui, c'est vrai. Si on dit Frédéric est une ordure, ça va, il y a peu de chances que vous le preniez bien.
Mais on est toujours l'ordure de quelqu'un. Donc ouais, ça, moi, je l'accepterai automatiquement. On est toujours contre quelqu'un, ça aussi, ça existe.
Ouais, et alors, donc, plutôt, parce que je savais que le débat dévirait sur la personne, mais si vous, sur les réseaux sociaux, pendant, je sais pas, une semaine, il y a un type qui vous insulte, qui insulte vous, vos proches, machin, vous direz, c'est pas grave?
Alors, je ne parle pas des proches, puisque moi, je ne parle qu'à la personne du président. Ouais. Je ne m'adresse qu'à la personne.
Ah oui, mais en fait, le débat, c'est ce qui se passe sur les réseaux. C'était, est-ce qu'on peut accepter ces phénomènes de violence répétés? Là, je veux bien qu'on parle de Macron à partir du moment où il y a une telle haine contre lui. Ça paraît évident qu'il faille le traiter de tous les noms et qu'il faille limite le buter. Mais moi, je vous dis, vous-même, est-ce qu'un personnage public, quel qu'il soit, c'est normal qu'on l'insulte sur les réseaux?
Mais il est public, donc il engage sa responsabilité, il engage sa crédibilité.
Donc,
s'il prend les gens pour des...
Mais s'il prend des gens pour des cons, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Prenons n'importe quel personnage public.
C'est pas la même chose. Mais non,
ah,
tu peux pas. Mais parce que c'est le président de la République. Et donc, en fait, c'est son action qui est critiquée. C'est même pas. En fait,
si ton action en tant que présentatrice est critiquée pendant deux semaines,
je porte pas plainte pour des insultes parce que sinon, je passerai ma vie au commissariat.
C'est ce que je te demande.
Donc, je m'en fiche.
Est-ce qu'on doit trouver ça normal?
Non, mais si tu veux, je vais pas aller porter plainte pour ça.
Mais si au bout d'un moment, t'en as marre, par exemple, est-ce que tu trouveras ça normal de porter plainte?
Non, je regarderai plus.
si vous me permettez un instant,
allez-y.
Moi je vais vous dire la même chose que ce qu'a dit notre président. Si ça vous plaît pas, qu'il vienne me chercher.
Oui, enfin d'accord, mais là Frédéric,
donc un personnage public doit tout accepter, c'est la morale de l'histoire.
En tout cas, c'est ce que pense Frédéric. Merci beaucoup Frédéric, en tout cas, d'avoir été avec nous. Mais c'est vrai que c'est un débat très compliqué. Et en fait, effectivement, on pourrait l'avoir sur beaucoup de gens, mais là, il se trouve que c'est Emmanuel Macron, que c'est le président de la République, et que c'est pas Monsieur Tout le Monde qui se fait insulter. Et évidemment, Pierre-Edouard.
Plus de droits d'expression. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je constate qu'à partir du moment où on a plus de droits d'expression d'un côté. Évidemment, c'est le cas d'un président de la République. Tout le monde peut pas dire, moi, je viens à 13h à la télé, je m'adresse à tous les Français.
On a peu de chance.
Malheureusement, on peut d'ailleurs trouver ça, ça peut dire une raison de pas s'engager publiquement en politique. D'ailleurs, c'est peut-être une raison aussi du problème d'engagement politique. Évidemment qu'on est l'objet d'autant plus, alors, de critiques, ça c'est pas très grave, de contestations, c'est pas très grave, mais aussi de quolibets pour parler gentiment ou d'insultes. Et effectivement, non, les personnes publiques ne sont pas traitées de la même manière. Après, je répète, c'est aussi le mode de fonctionnement d'aujourd'hui. Est-ce qu'un président de la République devrait être autant que lui sur les réseaux sociaux, parler des réseaux sociaux? Moi, je suis très dubitatif de savoir ce que le président de la République
est sur les critiques, sur le débat. Sur les moyens d'expression, on parlait précisément d'insultes.
Alors,
et
on va terminer.
D'actes violents.
Est-ce qu'un président de la République devrait donner une interview à Puf Gadget? On peut aussi se poser la question, quoi.
Oh, mais c'est 75 ans aussi, moi je trouve ça.
Ou chez McFly.
Franck nous appelle de Bordeaux, on va terminer avec lui. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous. Oui, donc, vous allez me poser la même question qu'à tout le monde.
Bah, écoutez, oui, c'est la question du débat. J'allais même pas poser de questions, j'allais vous laisser dérouler.
Ordure, on a tordu.
Être rapide. Je pense qu'effectivement, on a tous à un moment donné insulté quelqu'un, que ce soit une personne ou une autre. Je pense que ce qu'il faut, c'est surtout assumer le fait qu'on insulte. À partir du moment où on insulte quelqu'un sur un réseau social sous couvert d'un pseudo, je dirais que là, effectivement, qu'elle se fasse taper sur les doigts, cette personne, c'est un peu normal. Insulter, c'est en soi, c'est pas bien. Tout le monde va le dire. Mais bon, si on le fait, à ce moment-là, on l'assume.
Moi, c'est ce que disait Daniel au début de ce débat. Merci Franck d'avoir été avec nous. On va voir justement, si nos téléspectateurs et nos auditeurs pensent comme Daniel. Est-ce que c'est choquant d'avoir insulté Emmanuel Macron sur les réseaux? Est-ce que c'est logique d'avoir été arrêté pour ça?
Alors, il n'y a pas de marge d'erreur pour nos auditeurs et nos téléspectateurs qui ont voté. C'est choquant à 75%.
Dernier message, Paul.
Oui, ce message de Charlie qui nous dit pour cette histoire, il est temps de punir tous ces idiots qui se pensent tout permis derrière leur écran.
Ça, c'est vrai.
En revanche, on aurait peut-être pu commencer à s'occuper de cas un peu moins, de gens un peu moins connus, ce dont tu parlais par exemple sur les violences sexuelles tout à l'heure, ou les menaces Exactement. De mort entre lambda qui pourraient être traitées.
Elle n'était pas anonyme, cette dame, pour le coup, en plus.
Exactement,
en
plus, elle n'était pas soupçonnée.
C'est pas caché, elle.
Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On se demande là si vous approuvez la fermeture de l'usine Buitoni. Ça a été annoncé ce matin, cette usine ferme. Nos forces de l'ordre sont-elles trop violentes? Et puis, on se demandera également s'il fallait autoriser les fumigènes dans les stades. Ça y est, c'est autorisé également. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Paul Lassène, Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Pierre-Edouard Magnan. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va démarrer avec un extrait d'Apolline Matin ce matin sur RMC. Approuvez-vous la fermeture de l'usine Buitoni, annoncée ce matin par Nestlé, son propriétaire? L'usine de Caudry, dans le Nord, où étaient fabriquées les pizzas Buitoni, va être définitivement fermée. Une enquête est toujours en cours pour savoir ce qui a causé l'intoxication et la mort des jeunes enfants ayant mangé ces pizzas. Frédéric Bricourt, le maire de la ville, dénonçait ce matin sur RMC la décision du groupe Nestlé.
Ce sera pour nous un drame social parce que plus de 100 familles, parce que je savais dans le nord de la France, malheureusement, nous avons un taux de chômage qui est quand même assez important. Et souvent, cet emploi de chez Buitoni, c'était l'emploi de toute une famille. Et donc, on va se retrouver avec des centaines de familles qui vont, en pleine crise énergétique, se retrouver dans une situation qui est dramatique. Alors, on a dit que les salariés de Buitoni allaient aux toilettes, se lavaient pas les mains, et puis mettaient de la garniture sans gants sur les pizzas, ce qui est complètement horrible. On les a traités d'assassins d'enfants, etc. Et aujourd'hui, le groupe Nestlé, c'est à cause du groupe Nestlé, les salariés vont se retrouver avec la double peine.
Et c'est vrai que c'est une histoire extrêmement compliquée. Est-ce qu'il faut se réjouir de la fermeture de cette usine Nestlé qui fabriquait les pizzas Buitoni?
Alors, j'imagine que si les personnes se réjouissent, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a encore un problème sanitaire là-bas. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ferment l'usine. Ce que je sais, c'est que c'est le deuxième, enfin, c'est un des deux gros employeurs de la ville. Donc là, il y a la moitié de la ville qui va être au chômage. Alors chômage, pas avant janvier 2024 pour laisser le temps à un repreneur de venir, etc., etc. Mais ce que disait le maire, qui était très intéressant ce matin chez Apolline, c'est qu'il disait qu'en fait Nestlé, au même moment, est en train de fermer toutes ses usines en Ukraine. Ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose à récupérer. Il y a ce qu'ils pourront plus faire en Ukraine et ce qu'ils peuvent pas venir le faire dans cette usine-là. Il va falloir tout remettre aux normes, il va falloir changer les machines, etc. Mais est-ce qu'on pourrait pas sauver la centaine d'emplois et récupérer les activités ukrainiennes? Ça pourrait être une manière de sauver éventuellement. On peut pas être pour le chômage, c'est pas possible.
Ouais, mais non, mais c'est pas être pour le chômage. Mais les pizzas Buitoni avant, ça représentait 30% du marché en France. Aujourd'hui, c'est 5%. Ouais. Donc en fait,
c'est ce que je dis. Ils vont faire autre chose.
Ça ne se vend plus. Les gens ne prennent plus de pizzas. Les pizzas Buitoni, c'est pas ça. C'est que tu fais plus de pizza. Mais c'est Nestlé. Tu sais tout ce qu'ils font, Nestlé.
Mais justement, c'est le vrai problème.
Ils font plus de pizza. Non, mais ils le disent.
Tu vas pas obliger Nestlé à garder une usine s'ils ont
bien sûr. Mais tu fais plus de pizza et tu refais
autre chose. Enfin, quand on connaît les moyens.
Ils ont envie. C'est une entreprise privée.
Ils ont pas. Enfin, oui, mais ils sont privés, mais ils n'ont pas de pouvoir avoir envie. Une entreprise privée a des responsabilités, notamment vis-à-vis de ses salariés.
Bien sûr.
Et ils ne peuvent pas dire l'usine, elle est maintenant Buitoni, la marque est cramée, l'usine, on ne sait pas quoi en faire, en même temps, on va réduire les coûts. C'est une des entreprises les plus riches du monde, Nestlé. C'est un truc énorme. Ils sont tellement riches régulièrement, ils divisent le prix de leurs actions par 10 parce qu'elles sont tellement chères qu'ils ne peuvent plus les vendre. Vous dire à quel point on est dans un autre monde. Ils n'ont qu'à reconfigurer l'usine de manière correcte pour faire ce qu'il faut. Ou alors, mais ce serait complètement stupide, ou alors ils assument les salariés jusqu'à leur départ en retraite. Je trouverais ça stupide, mais au moins les gens mourraient pas de faim. Mais cela dit, ils reconfigurent l'usine. Tu parlais effectivement du cas ukrainien. En même temps, de la pizza. Heureusement, Péricot est pas là. De la pizza industrielle, on en vend toujours. La marque Buitoni est cramée, mais je veux dire, il y a d'autres marques. Alors, on va pas faire de débat sur la pizza industrielle ou la pizza artisanale. Ce que je veux dire, voilà, il y a aucune raison qu'une usine qui fabrique de
l'agroalimentaire. Vous défendez la nourriture industrielle que vous vivez pas d'habitude.
Non, mais moi, je suis d'accord avec lui. Il dit quelque chose qui est absolument essentiel. Le patron, on va l'appeler comme ça pour faire simple. Donc, le groupe Nestlé a forcément une part et une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ils n'ont pas suivi comment fonctionnait l'usine. Ok, les salariés à l'intérieur ont une responsabilité aussi puisqu'ils travaillaient mal et ils ont participé à la bouillie qui a été vendue et qui a causé des dommages absolument terribles. Mais le salarié, ceux qui ont mal travaillé sont quand même sous la responsabilité de chefs qui doivent surveiller le bon fonctionnement de l'usine et d'un groupe énorme, comme tu l'as dit, mondial, qui doit faire attention à ce qui se passe. Ils peuvent pas d'un coup dire « Bon, ben, comme Fresh Up s'est cramé, je ferme tout ». Je vous mets tous au chômage. En gros, c'est de votre faute. Non, ça c'est inadmissible. Alors, c'est inadmissible.
Okay, je comprends ce que tu dis, Daniel. Est-ce que vous avez vu les photos de l'usine Buitoni où étaient fabriquées les pizzas?
Attends, ils la refassent.
J'ai vu les photos. Mais oui, qu'est-ce qui t'empêche de tout nettoyer, de tout refaire pour faire d'autres choses que les pizzas?
Mais excuse-moi. Qui a laissé, mais moi j'ai vu les photos, mais j'ai été scandalisée. Il y a des rongeurs, il y a des saletés partout. Ça veut dire qu'il y a des gens, chez des salariés, et il y a des salariés qui n'ont pas lavé l'usine, qui n'ont pas respecté les mesures d'hygiène.
Il doit y avoir
Mais il y a des chaînes de responsabilité, comme disait Daniel. Il y a une chaîne de responsabilité.
Mais enfin, on peut pas quand même passer sous silence la responsabilité de certains salariés.
On a sur les alertes des salariés, sur l'attitude de la direction de l'usine. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations, donc je ne vais pas rentrer dans savoir si c'est le directeur de l'usine, etc. Je pose aussi la question. On dit oui, c'est peut-être les salariés qui travaillaient comme des cochons, mais peut-être aussi des salariés qu'on ont averti. Il n'y avait pas d'équipement, pas de machin. Vous voulez réduire les coûts. La responsabilité des salariés, la responsabilité de la direction de l'usine, la responsabilité du management,
de tout le monde.
La responsabilité de l'audit. On parle beaucoup d'audit dans les grands groupes. L'audit, c'est pas que de la finance, c'est aussi l'audit de process, etc. Et en tout cas, je trouve que c'est un peu facile de passer, comme d'habitude, les salariés par perte et profit. D'autant que j'imagine qu'à dedans, on va trouver des gens qui sont depuis 20 ou 25 ans, pour qui on n'a fait aucune formation continue pendant leur période d'emploi, vont se retrouver au chômage. Oui. Et dans 3 ans, on va nous expliquer qu'ils traversent pas la rue pour trouver pas de boulot et que c'est quand même pas normal qu'on continue de les payer.
Mais c'est une entreprise privée. C'est terrible, mais c'est une entreprise privée. Les gens, ils font ce qu'ils veulent avec
Parce que c'est privé qu'ils font ce qu'ils veulent.
On a le droit de le dénoncer. Ils ferment. Mais Buitoni, c'est quand même pas la première marque qui est confrontée à ce genre de problème sanitaire. Il y en a eu d'autres, des exemples
Je
rappelle, c'était Findus avec la viande de cheval dans les lasagnes, un truc comme ça. Bon, tu refais l'usine. C'est quand même malgré tout, heureusement ou malheureusement, peu importe, il y a des gens qui en mangent et il y a pas à critiquer ça. Ça se vendait. Les pizzas surgelées, ça se vend.
Et je crois que ça se vend toujours.
Refaire l'usine, tout refaire à neuf, et entamer une campagne de communication pour dire bon mais maintenant tout est propre et tout va bien comme ça a été fait pour plein d'autres scandales sanitaires de ce genre-là et les pizzas Buitoni ça serait reparti.
Tinder, ça en est bien sorti par exemple.
Il faut savoir qu'ils voulaient vraiment relancer cette usine puisque après que l'affaire ait été révélée, ils ont fermé l'usine. Ils ont fait des réparations pendant 9 mois, 2 millions d'euros de travaux. Elle a rouvert en décembre dernier, mais les chutes de vente, moins 25%, ont fait que de toute façon,
encore un
c'était inévitable.
D'anticipation. C'était évident qu'ils allaient plus vendre du Buitoni. La marque, elle est cramée, comme disait Pierre-Edouard. Ils ont été, au même moment, ils ont été éclaboussés par un scandale. Kinder, il n'y a pas de
Buitoni. Ah oui, le petit œuf, là, comment ça s'appelle?
Kinder.
Non, l'autre.
Chocobon.
Chocobon. Ah,
c'est les Kinder quand même.
Oui, c'est juste les chocobons.
Kinder, c'est comme Nutella, c'est irremplaçable pour les amateurs.
C'est
donc la pizza surgelée, est-ce que je ferai la différence entre une Buitoni, une Findus
Non, mais en l'occurrence, c'était juste un type, c'était la Fresh Up.
Exactement.
Oui, mais là, tu sais bien que ça emporte.
Ouais, voilà. Après tout, tu t'associes, exactement.
Parce que sur la viande de cheval, on avait beaucoup parlé aussi de Spanghero avant de parler de Findus aussi. Ouais. Hein, c'était l'usine Spanghero qui s'en était pris plein la tête. Hein.
C'est ça.
Les GG ce matin sur RMC, nos forces de l'ordre sont-elles trop violentes? Confrontées ces derniers jours à des manifestations qui dégénèrent, les forces de l'ordre sont pointées du doigt pour usage disproportionné de la force. Le ministre de l'Intérieur a pris leur défense en assurant qu'il n'y avait pas de violence policière, mais des actes individuels qui ont été sanctionnés, ce que partage l'enseignant des GG, Kevin Bossuet.
Déjà, je n'aime pas le concept de violence policière. Cela ne veut rien dire. Il y a certains policiers qui se comportent très mal, une infime minorité. Alors pourquoi parle-t-on de violence policière? Mais qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Soline? On était dans une manifestation qui était illégale. Par conséquent, tous les manifestants qui ont participé à cette manifestation illégale étaient dans l'illégalité. En outre, il y avait des gens qui étaient là avec des armes quasiment de guerre, qui étaient là pour taper sur la police, qui étaient là pour s'en prendre à l'ordre républicain. Et les policiers n'ont fait que se défendre. Quand on est républicain, quand on a l'amour de la France chevillé au corps, on soutient notre police qui est courageuse, qui est brave pour faire face à ces excités comme à Sainte-Soline qui ne vise qu'une chose, détruire notre cohésion nationale.
Nos forces de l'ordre sont-elles trop violentes? Emmanuel Dancourt. Mais un peu de douceur avant d'aller voir Daniel. Allez,
ah non, mais quel personnage, Kevin Bossuet. Ça se saurait évidemment s'il y avait de la violence dans la police. Moi, j'ai halluciné en écoutant Kevin Bossuet. On sait très bien qu'il y a des violences policières. On sait très bien que ça existe. Pierre-Edouard s'énervait à côté de moi en écoutant Kevin en disant 4000 grenades de désencerclement pour 6000 manifestants. C'est peut-être un chouïa beaucoup. On le sait très bien. On sait très bien qu'il y avait des casseurs d'un côté. On le sait, qui étaient là pour ça, qui étaient pour faire de la casse. Mais on sait aussi qu'en face, enfin moi, le coup de Darmanin de nous dire un petit coup de fatigue des forces de l'ordre, moi je
veux
bien.
Ça, on peut pas le nier.
Est-ce que le petit coup de fatigue donne l'excuse pour foutre des coups de matraque, pour envoyer des grenades à la figure, parce qu'il y en a qui sont pris dans la figure. Tu es force de l'ordre, tu es formé pour ça. Tu es formé pour restreindre l'usage de la force au maximum. Après voilà, on a des forces de l'ordre aussi qu'on n'arrive pas à tenir. Hein, on va pas se mentir.
Mais voilà. Après est-ce que c'est une institutionnalisation de la violence, ou est-ce que c'est au contraire effectivement des actes isolés, comme le dit Gérald Darmanin? Daniel Riolo.
La question, c'est sur les ripostes violentes de la police, ouais. C'est ça? Alors oui, peut-être que la riposte de la police, elle est violente, peut-être qu'elle n'a jamais été aussi violente, j'en sais rien, mais ce que je pense, c'est que jamais les attaques à l'encontre de la police, jamais les attaques n'ont été aussi violentes. Rarement dans l'histoire, on a été dans un climat aussi insurrectionnel. Je n'en peux plus d'entendre que ce sont des casseurs, Emmanuel. Ce ne sont pas des casseurs, ce sont des révolutionnaires dangereux qui ne sont pas isolés parce qu'ils sont soutenus politiquement par des partis politiques. C'est là qu'est toute la différence. On a suivi sur BFM il y a 2 jours, en direct. J'ai l'impression que c'était un film.
Il y avait
mon ado à côté de moi qui ne comprenait pas bien ce qu'on était en train de regarder. C'était journalistiquement intéressant de l'avoir fait, ce qu'a fait BFM, mais on était au milieu de ce que faisaient les forces de l'ordre. Et donc on avait face à ces forces de l'ordre des gens qui étaient là, et la seule question était à quel moment ils vont attaquer. Et
donc on parle de bataille rangée, ils ont beaucoup dit ça.
Et donc par conséquent, à quel moment la police va riposter? Et donc après on se posera la question de la riposte sera-t-elle violente? Mais on a des bandes de révolutionnaires dangereux, soutenus politiquement, qui sont là et qui viennent non pas pour défendre une cause, mais pour renverser un régime. Mmh. Et ils sont soutenus par des partis politiques qui ne condamnent pas ces actes-là, mais qui accusent la police d'être violente. Ça n'a rien à voir. Moi, si on me parle de d'actes de dérapage de police quand ils font un contrôle, je suis le premier à vouloir qu'il y ait des contrôles, que l'IGPN fasse son travail et que les autorités disent là tu as mal travaillé et qu'on condamne le policier qui est dans tout ce que tu as dit avant, qui doit être dans le contrôle, qui doit faire attention. Là, nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure-là. Okay. Pas du tout.
Donc c'est, pour toi, c'est proportionné. Pierre-Edouard, justement, tu relevais qu'il y avait quand même eu beaucoup de grenades de désencerclement. On parle de Sainte-Soline qui avait été lancée à l'occasion de cette manifestation interdite mais ultra, ultra violente.
Oui, et oui, c'est ce que je disais. Enfin, tu as rappelé le chiffre, effectivement. Quand les forces de l'ordre, j'appelle, les forces de l'ordre sont les détenteurs de ce qu'on appelle un peu pompeusement la violence légitime. On peut pas reprocher à des casseurs de casser, on doit les attraper, les sanctionner, mais on peut pas leur reprocher parce qu'ils viennent pour ça. En revanche, les forces
de l'ordre. C'est un peu dommage, quoi. Si on peut leur reprocher.
C'est pour ça que je fais un peu d'ironie, mais j'ai dit, d'ailleurs, il faut les arrêter, les sanctionner. Ah, pas de débat là-dessus. Mais on peut pas en soi le leur reprocher puisque c'est leur objectif. D'ailleurs, on les connaît, on sait qu'ils viennent, etc., on les suit. En revanche, les forces de l'ordre, elles sont effectivement là pour manifester, je dirais, une retenue. Vous savez, la plus grande manifestation de la puissance, c'est sans doute la retenue. Quand des forces de l'ordre, je le répète, envoie 4000 grenades de désencerclement. On est le seul pays au monde à utiliser ça, les grenades de désencerclement. Sur 6000 manifestants, il y a visiblement, on a utilisé une bombe atomique pour écraser une mouche.
Je ne peux pas parler de manifestants, parce qu'il y avait peut-être 5000 manifestants, mais
là, en l'occurrence, ce n'est pas des manifestants.
1000 personnes qui n'étaient pas là pour manifester.
Mais du coup, tu avais aussi les manifestants au milieu. Quand on envoie 4000, tu vises pas les 500.
Mais ils s'en servent comme boucliers. Ils s'en servent comme bouclier. Ils sont dans, eux viennent dans un esprit de guerre. Mais c'est ça le problème. Ils viennent dans un esprit de guerre.
500 gus ne vont pas renverser la République ni renverser l'État.
Mais tu peux pas les laisser faire quand même.
Mais je dis pas le contraire. Mais cela dit, qu'on vienne pas m'expliquer qu'on est au bord de la guerre civile.
Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas condamnés par certains partis politiques. Mais où le problème est là. C'est que quand tu as un soutien politique à ton action ultra violente et révolutionnaire, c'est là qu'arrive le climat insurrectionnel et le danger. Toute la différence, elle est là. Sinon, je t'assure que je serai de ton côté. Si les partis politiques ne tapaient pas sur la police sans jamais taper sur les révolutionnaires, je serais de ton côté, je te le promets.
Pierre-Edouard,
mais ça n'est pas le cas.
Je suis heureux de découvrir d'abord que Daniel pourrait être révolutionnaire et donc c'est déjà en soi.
Ah non, pas révolutionnaire.
Après, j'ai envie de dire, si on est dans une optique révolutionnaire, le maintien de l'ordre est forcément violent à un moment parce que sinon c'est pas possible.
Oui.
À l'inverse, quand des gens souhaitent, c'est pas forcément mon souhait, mais changer de régime, renverser un régime en place, évidemment que eux aussi sont violents. Et on voit les tensions qui augmentent et on voit effectivement aujourd'hui, on l'a vu avec les gilets jaunes. Je rappelle d'ailleurs que les violences ont aussi été assez également réparties. Et on le voit aussi avec cette brave M dont on parle beaucoup, etc. Où on réinvente les policiers voltigeurs. J'appelle qu'on les a supprimés quand Malik Oussekine est mort en 86. J'espère qu'on n'en arrivera pas là avec les braves M parce que à chaque fois, on fait monter. Il y a un moment, il y a un drame. Le drame, malgré tout, il vient quand même souvent plutôt la mort d'un manifestant, hein, en 61, en 62, c'est pas tellement des policiers qui sont morts. J'espère qu'on n'en arrivera pas là pour avoir une dissolution de la brave M et puis dans 10 ans, on réinventera un autre truc. Après, en général, c'est la doctrine du maintien de l'ordre. Il y a de toute façon un problème dans le nombre de nos forces de l'ordre, dans la formation de nos forces de l'ordre et dans la manière dont on les fait travailler. Parce que là aussi, il y a beaucoup à dire et c'est vrai qu'eux, après, eux sont en première ligne et des fois, ils sont aussi les victimes des décisions des politiques qui sont derrière eux.
Dans un instant, on change totalement de sujet. La minute conso avec Gaëtan Mélin. On va parler de la baisse des réservations pour les vacances de Pâques. C'est un dégât, encore une fois, causé par l'inflation. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h50 dans Estelle Midi, vous êtes sur RMC, RMC Story, on va parler vacances avec Gaëtan Mélin, la Minute Conso, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
On va parler vacances, Gaëtan Mélin, ça aurait dû être un sujet léger, ça sent le soleil, etc. Mais non, vous nous parlez vacances avec une mauvaise nouvelle.
Eh bien oui, puisque les réservations sont en baisse de 10% par rapport à l'année dernière pour les vacances de printemps, qui, rappelons-le, vont commencer vendredi prochain pour la zone A, s'étaler jusqu'à début mai pour la zone C. Et la raison à cela, c'est tout simplement l'inflation. Ah oui. Les Français qui font encore des arbitrages et certains décident tout simplement de renoncer à partir en vacances durant ce printemps. Et même ceux qui partent, eh bien, le choix de la destination dépend avant tout du budget et notamment du logement. Alors une étude de PAP montre que ce qui est recherché aujourd'hui par les Français, ce sont les destinations dites abordable. Et c'est pour ça qu'ils choisissent la Bretagne, la Normandie, la Vendée, ou bien encore le Portugal. Tout simplement parce que pour ces régions, si vous voulez louer un logement durant cette semaine, eh bien, il faut débourser entre 600 et 700 euros, ce qui n'est pas très cher. L'arrière-pays est également très recherché, selon une enquête réalisée par Expedia, Hôtel.com et Abritel. La raison est simple, là aussi. Les départements sont situés à quelques heures des grandes villes. Ça permet de réduire le coût du trajet. On n'a pas non plus l'obligation de prendre l'autoroute pour s'y rendre. On peut utiliser les routes secondaires. Et parmi les départements qui voient les recherches de locations de vacances bondir, eh bien, on retrouve le Cher et l'Aisne, plus 90%, ainsi que le Cantal, plus 70%, effectivement.
Je vois Daniel, là, qui est... tu découvres des départements, j'ai l'impression.
Non, je les connais, mais je n'ai jamais réellement pensé à aller en vacances là-bas.
Oui, t'adores le Cher ou le Cantal, c'est magnifique.
Mais en même temps, il pas... non, mais plus 90%, oui. Ça a l'air impressionnant, mais comme ce n'est pas les départements les plus demandés, en fait, tu vois, si tu pars de 2 et que tu arrives à 4...
Non mais bien sûr, voilà. Effectivement. Mais encore une fois, ce sont vraiment des départements qui aujourd'hui ont le plus grand nombre de clics parce que il y a toujours cette volonté de faire des arbitrages et donc de serrer les budgets, de partir. Oui.
Mais c'est moins cher sur la Côte d'Azur, c'est
exactement.
Sûr. Pourquoi le Portugal? C'est une super destination, le Portugal.
Alors, pour deux raisons. Tout d'abord, c'est un pays qui n'est pas cher du tout. Et puis, on a la certitude d'y trouver le soleil. Et ça, c'est très important.
Et la mer froide.
Effectivement. Effectivement.
Ça, c'est horrible. Ah, oui.
C'est l'océan.
C'est pire que la Bretagne. C'est un truc malade.
Ah, si, si. Rien n'est pire que la Bretagne.
C'est pire.
Parce qu'il fait chaud dehors.
Même en plein été, c'est très, très froid. Effectivement. Là, les réservations ont bondi de 12,5%. Alors, tout y est moins cher. Le logement, mais aussi l'alimentation. Alors certes, il faut prévoir aussi le budget pour y aller, soit la voiture, soit l'avion. Donc c'est une dépense supplémentaire, mais encore une fois.
Dans le Portugal, si vous habitez à Lille, en termes de budget voiture, ça. Puis au niveau de la bouffe, c'est quand même pas. Enfin, je veux dire, c'est pas.
Ah si, c'est nettement moins cher qu'en France.
Ah ben c'est moins cher, oui. Mais enfin, c'est pas.
Je crois qu'elle veut dire que c'est moins bon.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ah alors là. Ah franchement, je pense qu'en vacances au Portugal, tu mangeras beaucoup mieux que dans le sud de la France, où tu vas te faire berner dans 8 restos sur 10.
Ah, mais que ce soit moins cher, je suis d'accord.
Et c'est, ça doit faire longtemps que tu n'y es pas allé, mais la qualité s'est grandement améliorée. Bah, t'as pas dû aller dans les bons endroits.
Au moins, autre chose que des crêpes au Portugal.
Exactement, bravo.
Les crêpes, c'est moins cher.
Alors,
c'est
surtout en Bretagne. Avant de bien manger en Bretagne, il faut se lever de bonne heure pour
toi. Il y a de la charcuterie.
Ah ouais,
de la charcuterie. Et des fruits de mer. On est le pays de la charcuterie, monsieur.
Enfin, à Landou, tu vas en manger tous les jours.
Merci. Devenir bien meilleur.
La Bretagne.
Bon, excusez-moi, c'est
une fois que t'as mangé un tourteau, bon.
Mais t'as quand même mangé plusieurs. Mais c'est le pays de la gastronomie.
Le pays de la gastronomie.
On va juste rappeler où sont les cités gastronomiques en France, à Bordeaux, à Rungis et à Dijon. Ouais, juste pour info.
Bon, terminons cette chronique.
Oui.
T'as oublié Lyon, non?
Bon, taisez-vous. Les grands perdants, quand même, là, pour ces vacances de Pâques, eh bien, ce sont ceux qui sont dans le sud de la France.
Oui, parce que le soleil, ça coûte cher, en fait, en France. Moins 28% de réservations sur l'axe Atlantique Sud, où la moindre location dépasse les 900 euros la semaine. Moins 10% pour la Côte d'Azur, où il faut compter pas moins de 1200 euros pour un pied-à-terre pour la semaine. C'est tout simplement hors budget pour un certain nombre de Français qui, encore une fois, veulent partir en vacances, mais pas dépenser tout leur mois de salaire.
Merci beaucoup Gaëtan Mélin. Merci pour cette chronique. La Minute Conso avec Gaëtan, c'est tous les jours dans Estelle Midi à 13h50. Et vous retrouvez cette chronique, si vous le souhaitez, en podcast sur rmc.fr, l'application RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on parle du RSA et la ville de Pau qui conditionne l'obtention du RSA à 15 heures d'activité par semaine. Vous êtes pour, vous êtes contre. En tout cas, on attend vos réactions au 32-16 sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.